Bon, il faut savoir, on y est, la semaine de Jackson Hole, c'est un peu comme l'arrivée du Beaujolais nouveau, hein. Tout le monde en parle, tout le monde fait semblant de savoir ce qu'il y a dedans, et personne n'est vraiment sûr d'aimer ça. Sauf que là, au lieu d'une piquette qui donne mal au crâne, c'est Jérôme Powell qui va nous servir sa petite cuvée monétaire 2025. Et entre nous, ça peut donner mal à la tête encore plus qu'un verre de Beaujolais un peu trop tiède. En attendant le grand discours de vendredi, Wall Street a donc décidé de se faire un petit régime, un régime alimentaire, histoire de perdre quelques pourcents avant le grand déballage. Et comme toujours dans ces cas-là, eh ben on prend les profits là où il y a des profits à prendre. Donc comme avant-hier, les Magnificent Seven, ces vedettes de l'intelligence artificielle qui nous font croire que la finance c'est juste des serveurs et des data centers avec le logo Nvidia dessus et que le reste c'est du cloud géré par Microsoft, étaient à nouveau sous les feux de la rampe et étaient à nouveau sous pression. Alors légèrement bien sûr, comme avant-hier, on n'était pas en mode panique, c'était juste une nouvelle vague de prise de profit, histoire de rééquilibrer les portefeuilles avant la fin de la semaine, au cas où Jérôme Powell décidait de nous prendre à contre-pied avec un discours qui serait un petit peu trop hawkish par rapport à nos attentes. Je rappelle pour mémoire que nos attentes, c'est une baisse des taux en septembre et si possible plusieurs baisses des taux en rafale d'ici la fin de l'année, histoire de justifier les valorisations complètement débiles de certains pans des indices boursiers. Et donc, si j'ai bien tout compris, si Powell n'utilise pas le bon ton, on pourrait vouloir appuyer sur le bouton sell, sell, sell un peu plus intensément que d'habitude. Là, parce qu'il faut tout de même bien comprendre que 25 BP de baisse des taux pour tenir jusqu'à la fin de l'année, ça va pas suffire. Bonjour et bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 21 août 2025. Aujourd'hui, on parle baisse des Magnificent Seven, minute du FOMC Meeting et nouveau vent de pression sur la Fed. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Le Nasdaq a donc encore perdu du poids hier, mais attention, c'est pas une vraie crise, hein, c'est juste un malaise vagal dû au stress pour attirer l'attention. Sauf que bon, là, ça fait deux jours de suite et ça commence à ressembler à un malaise un peu plus sérieux, même si le reversal intraday de Nvidia vaut quand même la peine d'être signalé. Non, je dis ça parce qu'en lisant la presse ce matin, on a l'impression que c'était le bain de sang sur les techs, mais quand on voit le retournement que Nvidia nous fait hier, on a quand même le sentiment qu'on a plus peur de ne pas en avoir que d'en avoir trop. Regardez donc ce chart, et c'est le chart minute par minute. Hier, le titre plonge comme le reste de la tech à l'ouverture. Mardi soir, on avait clôturé la séance à 175,64. On ouvre hier à 15h30, à 175,17, légèrement en baisse. En l'espace de 40 minutes, on descend chercher les 168,80. Et puis ensuite, ça n'est qu'une lente remontée pour terminer à 175,40. La force qu'il faut pour faire remonter un titre pareil durant toute la séance, c'est quand même pas rien. Alors sur le graphique daily, la configuration du candlestick de la journée est incroyable également. C'est ce qu'on appelle typiquement une bougie de retournement, une bougie de rejet, un style amer inversé. Ça veut dire que psychologiquement, les investisseurs ont tenté un massacre, on est allé tester la zone des 170$, pile sur la moyenne mobile des 50 jours, qu'on voit en rose, mais les acheteurs sont revenus en force et ont dit « Eh non, non, mais attendez, Nvidia, c'est quand même pas une biotech à deux balles, c'est la star du marché. » Résultat, gros rachat en bas, le titre clôture beaucoup plus haut que son plus bas, ça traduit clairement une bataille entre vendeurs et acheteurs, avec les vendeurs qui ont clairement perdu la manche du jour. On peut donc en tirer plusieurs conclusions. À court terme, tant que la zone des 165-170, la moyenne mobile des 50 jours, tient toujours, Nvidia reste dans une tendance haussière relativement saine. La bougie d'hier ressemble à un retest réussi, on est venu tester le support, ça a tenu, tant mieux. À moyen terme, ça reste une bougie de volatilité en plein sommet, ça veut dire que la confiance est moins tranquille, on sort du mode euphorie linéaire. Si jamais le titre casse franchement les 165$ à la baisse, le prochain niveau naturel, c'est la moyenne mobile des 200 jours qui se situe, pour information, vers 137$. Et ça ferait quand même mal à Nvidia, mais mal à tout le marché, dû à la taille de Nvidia, bien sûr. Souvenons-nous quand même que ce qui s'est passé hier, c'est une certaine alerte. C'est une alerte, Nvidia est tellement lourde dans les indices qu'à chaque fois qu'elle tousse,
le Nasdaq finit à l'hôpital. Ce genre de caldastique montre qu'on est dans une zone de nervosité, et ça tombe bien, il y a Jackson Hole qui commence et Powell qui parle demain. Bref, je me suis un peu perdu avec mon graphique ce matin, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la tech est un peu sous pression et que les intervenants sont quand même nerveux, même si ça tient relativement bien quand même. Là tout de suite, on ne peut plus ouvrir un journal, un Bloomberg, une app, aller sur X sans tomber sur des rapports et des graphiques qui montrent que les valorisations sont complètement lunaires. À force de payer Nvidia 58 fois ses bénéfices, les investisseurs ont fini par se dire « Et si par hasard ça ne marchait pas aussi bien que prévu ?» L'intelligence artificielle. D'ailleurs, en même temps, il y a un rapport du MIT qui est sorti, qui a ajouté de l'huile sur le feu en expliquant que 95% des projets IA génératives en entreprise ne servent strictement à rien. 95%, c'est plus que la probabilité de baisse des taux le 17 septembre. Autrement dit, la révolution de l'intelligence artificielle, c'est peut-être juste une super application qui écrit des mails polis, mais franchement inutiles. Et histoire d'enfoncer le clou, Sam Altman, himself, Monsieur OpenAI, a même comparé l'IA à la bulle Internet de l'an 2000. Résultat, Apple, Alphabet, Amazon, Nvidia, tout le monde est dans le rouge, et comme 40% du Nasdaq, c'est ces boîtes-là, eh ben le Nasdaq ne peut rien faire d'autre que de clôturer en rouge hier soir. Pendant ce temps, le Dow Jones joue les vieux sages et fait semblant d'aller bien en terminant encore une fois en très 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 légère hausse, alors qu'en réalité il se cache derrière Coca-Cola et Caterpillar en priant pour que personne ne remarque qu'il ne sert plus à rien dans le débat actuel. Pour faire simple, hier on a attendu encore et en attendant on essaye de réduire les risques sans que ça se voie trop. Parlons maintenant de la Fed. Tout d'abord, hier il y avait les minutes du FOMC meeting. Mais avant ça, il faut aborder un autre sujet qui concerne aussi la Fed, et on pourrait appeler ça Trump contre la Fed, épisode 314, saison 9. Oui, parce que, comme si la thématique de la tech qui tousse ne suffisait pas, on a aussi eu droit au feuilleton politique quotidien. Trump veut maintenant la tête de Lisa Cook, qui est gouverneur de la Fed, accusée d'avoir déclaré deux résidences principales pour ses prêts immobiliers. Bref, une histoire d'immobilier qui sent quand même un tout petit peu le règlement de compte. On a vraiment l'impression que Trump est en train de se prendre pour un RH sous anabolisant qui n'a pas rempli sa journée tant qu'il n'a pas eu son quota de licenciement. On ne va pas aller trop dans les détails de l'affaire Cook, parce que sinon je vais finir cette vidéo vers midi, mais disons que Lisa Cook, gouverneur de la Fed nommée par Biden, est en place jusqu'en 2038. 2038. 2038. Là, on est encore dans le fonctionnariat hardcore, dans le panthéon de la sécurité de l'emploi. Mais là n'est pas le sujet. Là n'est pas le sujet parce que Lisa Cook est accusée d'avoir déclaré donc deux résidences principales pour choper des prêts immobiliers avantageux. Et Trump, en tant que RH et justicier masqué, a sauté sur l'occasion. Il exige sa démission et menace carrément de la virer, même si légalement c'est quasi impossible. Mais au fond, le vrai sujet, c'est que Trump met encore une fois de plus la pression sur Powell et sur la Fed, puisqu'en virant Madame Cook, il pourrait la remplacer par un de ces mecs. Le message est donc clair, baissez les taux ou je vous vire un par un. Et même si là aussi, légalement, c'est pas si simple que ça, merci à la loi de 1935. Mais bon, entre l'égalité et Trump, on sait tous, et qui finit en général par gagner à la fin. Et cette fois, c'est pas les Allemands. Et donc, nous les investisseurs, eh bien, on regarde tout ça en se disant, est-ce que Powell va oser refroidir les marchés vendredi? Pour l'instant, les Fed Funds anticipent quasiment 100% de chance d'une baisse des taux en septembre, mais si Powell sort une phrase un peu trop brutale ou à double sens, ça peut vite tourner au carnage sur les indices. Donc du coup, vous ne direz pas qu'on ne vous l'avait pas dit. Pour l'instant, on est en train de tendre l'élastique et on ne sait pas si elle va lâcher, ou plutôt quand est-ce qu'elle va lâcher. Bon, l'épisode 314 saison 9 de Trump contre la Fed, c'est fait. Passons maintenant aux minutes du FOMC meeting. Alors hier, je vous avais promis de vous lire le rapport des minutes. Le voici. Bon, je vous préviens, c'est 18 pages, et même si les trois dernières, c'est de l'administratif, et qui ne sert à rien, c'est super long et c'est super chiant. Mais bon, chose promise, chose due. C'est chiant, hein, vous êtes d'accord? C'est méga chiant. Bon, bah, c'est comme ça pendant 18 pages. Alors, en gros, ce qu'il faut en retenir, c'est que les minutes de la Fed publiées hier montrent que la belle unité de façade est en train de voler en éclats. Lors de la réunion de fin juillet, deux gouverneurs, Michel Bowman et Christopher Waller, ont donc carrément voté pour une baisse des taux de 25 basis points, marquant la première double dissidence à la Fed depuis 1993. Vous en conviendrez, c'est pas une surprise, puisque Bowman et Waller sont à la botte de Trump. Le reste du comité a préféré garder les taux inchangés. En résumé, c'est embêtant parce que personne n'est d'accord. Sur les tarifs douaniers de Trump, certains veulent attendre de voir l'impact sur l'inflation et d'autres trouvent que patienter, c'est dangereux. Sur le marché de l'emploi, certains disent plein emploi, d'autres voient déjà un refroidissement avec salaire et embauche en berne. Et sur les risques globaux, la majorité craint encore plus l'inflation, mais une minorité commence à s'inquiéter du chômage. Dans le fond, Bowman et Waller, qui sont tous deux nommés par Trump et potentiels successeurs de Powell, bonjour l'objectivité, veulent des baisses rapides et graduelles jusqu'à 1,5%. Powell, lui, continue de camper sur son approche wait and see, et quitte à se faire traiter de too late. Résultat, le marché price toujours à plus de 80% une baisse des taux en septembre. Enfin, je dis 80% parce qu'une fois c'est 80, une fois c'est 90, une fois c'est 100, une fois c'est 95, mais on va dire entre 80 et 100%, on price une baisse des taux en septembre. Mais avec Jackson Hole vendredi, tout le monde attend Powell comme le Messie ou alors comme le croque-mitaine. Et là, vous me direz, il n'y a rien de neuf. Et vous aurez raison. Je ne sais même pas pourquoi je suis là, d'ailleurs. En dehors du gros feuilleton tech plus Powell, on a quand même eu 2-3 trucs à grignoter. Tout d'abord, le pétrole est reparti à la hausse, plus 1,5% hier. On repasse au-dessus des $63 grâce à une chute surprise des stocks américains qui annonçaient une baisse de 6 millions de barils. Autrement dit, les Américains roulent toujours autant en SUV de 3 tonnes, malgré les taux d'intérêt et malgré l'inflation et malgré les 22 litres au 100. Target a plongé de 6% et enquis son 11e trimestre de stagnation des ventes et ils ont annoncé un nouveau CEO qui vient de l'interne et qui est qualifié de chiant par les analystes. La sanction a été immédiate, le titre a pris 6% dans les dents. Love sa tenue choc puisque visiblement les Américains bricoleraient toujours pour oublier qu'ils ne peuvent plus payer de vacances. Et côté surprise, eh bien Hertz s'est envolé de 6% après avoir annoncé qu'on pourra bientôt acheter ses bagnoles d'occasion sur Amazon. Oui, oui, bientôt vous pourrez acheter votre Toyota Yaris d'occasion comme vous commandez une machine à café. Alors voilà où on en est. Je vous préviens, il n'y a pas grand-chose de neuf par rapport à hier. Sauf pour tout ce qui concerne Trump. C'est-à-dire qu'il y a quand même des trucs en plus. Donc, on a un marché US qui a gagné 30% depuis le mois d'avril, porté quasi exclusivement par l'IA et les méga-caps. On a Powell qui parle vendredi à Jackson Hole, coincé entre Trump qui le menace de tous les côtés et un marché qui exige des baisses de taux dès septembre et des baisses qui, si possible, continueront après. Et on a des doutes de plus en plus bruyants sur la rentabilité réelle de l'IA. Le débat est donc lancé. Le débat est lancé et le décor est donc planté. Soit Powell enfile son costume de Père Noël et valide la baisse des taux et on repart pour un tour de manège euphorique, soit il fait le rabat-joie et rappelle que l'inflation existe toujours et dans ce cas, attachez vos ceintures. En Europe, on profite mollement de la situation, on rêve de paix à l'Est, mais on sait très bien que la fête est organisée par la Fed. Tant que Powell ne parle pas, tout le monde reste suspendu. Le doigt sur la gâchette, ou plutôt le doigt au-dessus du bouton sell. Bref, on marche sur un fil, et plus le fil est tendu, plus le numéro de funambule devient excitant, vous en conviendrez. Alors, rendez-vous demain, Jérôme parlera à 16h, juste avant la clôture européenne, histoire de nous flinguer le week-end, ou pas. Pour le reste des chiffres économiques, aujourd'hui, on aura les PMIs un peu partout dans le monde, mais surtout aux USA. Et d'ailleurs, quand on voit ce chart, c'est le Cass Freight Index qui mesure les volumes de transport de marchandises aux États-Unis. Il est tombé à son niveau le plus bas depuis la grande crise financière post-subprime du début des années 2010, on va dire, si on met de côté, bien sûr, l'année Covid. Traduction économique, moins de camions, moins de trains, moins de marchandises qui bougent, une demande qui s'essouffle un peu, et donc une économie qui ralentit. Oui, je sais, je n'ai que des bonnes nouvelles à vous donner et c'est super motivant. Mais c'est pas moi qui fais l'économie, c'est Powell. À moins que ce soit Trump. Bref, on se voit demain et je vous raconterai l'histoire de Palantir qui est victime de la malédiction de Jim Cramer. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. Ça monte à toute vitesse, hein. Vous êtes près de 3000 à vous inscrire tous les mois. Et là, on a carrément franchi les 60 000. Et puis, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à la commenter. Comme ça, au moins, je sais pourquoi je me lève à 4 heures du matin pour lire le rapport des minutes du FOMC Meeting. Excellente journée à tous et que Powell soit avec vous. Bye bye.